Donc, petit rappel, l'an dernier, j'ai commencé en cherchant une définition de la notion d'espace chez Georg Simmel, et je m'étais arrêté à cette proposition lue au passage, un peu peut-être une interprétation de ma part ou une explication généreuse, je ne sais pas, enfin, qui prête au texte ou à sa traduction beaucoup, mais enfin, quelque chose m'avait intéressé qui était la distinction entre ce que peut être véritablement un espace et seulement, si j'ose dire, une étendue. C'est-à-dire que de distinguer ce qui s'étend sans fin, par exemple, et ce qui constitue vraiment un espace et l'élément constitutif de l'espace, on voit ça en suivant les exemples que prend Simmel dans le texte que je lisais à ce moment-là, c'est d'impliquer une démarcation. Donc, par exemple, j'en viens à mon sujet, le fait qu'il y ait, mettons, un endroit qu'on puisse appeler privé par différence avec un autre endroit qu'on puisse appeler public, ce qui suppose que ces endroits ne sont pas ménagés de la même manière, qu'ils ne se présentent pas de la même manière, qu'ils ne donnent pas lieu à la même sorte d'activité, c'est constitutif de l'espace humain. Bien. Ensuite, j'avais, muni de cette idée, lu quelques passages d'Anna Arendt qui font fond sur cette distinction entre ce qu'elle appelle couramment espace privé et espace public. Puis j'étais tombé sur ce passage dans lequel elle parle de la société. Ne lui vient pas à ce moment-là. Le fait est, dans le texte, le mot espace et le mot sphère. Donc elle parle d'une sphère sociale comme si, c'est moi qui interprète, le social était quelque chose englobant, constituant une sorte d'environnement et pas véritablement un espace. Donc, je me disais peut-être qu'au fond, le social, c'est quelque chose qui, en effet, s'étend ou tend à s'étendre sans fin. Je reprends cette fois une phrase, une expression d'un arrêt, entre le privé et le public. Il y avait ce mot qu'on avait vu chez elle, de verbe intercalé. La société, ce qui s'intercale, le dit au passage dans un texte, entre le privé et le public. Et puis, un peu après, elle évoque, pour caractériser ce qui s'intercale entre le privé et le public, ce qui vient occuper, ce qui sépare l'une et l'autre instance, elle dit que ça n'est ni privé ni public. Autrement dit, en tout cas dans le texte que nous lisions l'année dernière, elle ne donne pas de définition positive de la société. Elle dit aussi que c'est quelque chose qui s'est développé avec le temps moderne. Le fait que les êtres humains ne passent pas leur temps à seulement aller d'une sorte d'endroit privé à une autre sorte d'endroit public pour y accomplir ici ou là des activités de nature différente, le fait que les humains cessent d'avoir une vie alternée de cette manière, puisqu'on suit les concepts de vie par conséquent dans un monde spacieux, dans un espace, le fait que ce mode-là de la vie ou de l'existence humaine tend à disparaître, c'est lié, dit en substance et même quasi littéralement Anna Arendt, à l'essor de temps moderne qui ont développé la vie sociale, plutôt que la vie privée et la vie publique. Alors, nous étions quittés l'an dernier un peu bizarrement, parce que la conférence n'avait pas eu lieu à cause du début de la phase Covid de 2020. Mais nous nous sommes quittés sur une idée négative de la société, hein, qui est donc définie par un caractère ni privé. Et je cherche cette année à définir le plus positivement que je pourrais le social. Au fond, ça veut dire, est-ce que je peux penser la société non pas comme une sphère, non pas comme un milieu, non pas comme un environnement, etc., mais comme participant de la spatialité humaine. de l'espace. Donc, je précise ça pour bien dire dans quel sens je vais cette année. Alors, ça ne veut pas dire que, pour moi, au bout du compte, le social est tout positif. Voilà. Mais cette année, je cherche la positivité du social. Le rééquilibrage, si ce mot convient, je vous propose, parce que j'ai beaucoup d'ambition et d'optimisme, je vous propose de le faire l'année prochaine. Voilà. Donc cette année, je suis en quête de ce qui pourrait être, je prends un mot, une traduction de Benjamin, la qualité du social, le quid, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'il y a, on pourrait trouver à dire positivement et non pas négativement dans la société. Donc je vais m'écarter pour ça d'un certain nombre de gens qui, plus ou moins nettement, nous mettent dans l'esprit des idées négatives, des conceptions négatives du social, tout en nous disant éventuellement ce qui ne nous aide pas à avoir une espèce de dynamisme psychique, tout en nous disant en même temps que cette société mal fichue, qu'on ne peut pas, à laquelle on ne peut pas attribuer de qualité positive, on ne peut pas s'en passer. Donc évidemment, ça alimente le malaise. Je cherche si on peut sortir de ce malaise qui consiste à dire la société est inévitable et en même temps, elle est essentiellement douée ou dotée de qualités négatives. Voilà. Je rappelle que c'est ça mon objectif. Et je le rappelle parce que je vais commencer par vous parler d'un penseur qui n'est pas du tout dans cette optique-là. Donc, on pourrait dire que je me contredis. Mais patience, je vais m'écarter justement de cette façon de penser les choses. Donc, je commence la séance de cette fois-ci en vous disant que je voudrais vous parler d'un penseur qui s'appelait Wilhelm Flusser, dont vous connaissez peut-être déjà quelques textes. Wilhelm Flusser est quelqu'un qui écrivait, en tout cas le texte dont je vais vous parler, dans les années 80, qui est un très très beau texte du point de vue de son écriture. C'est plein de phrases absolument, enfin, je ne sais pas comment dire ça, saisissantes. C'est d'une clarté extraordinaire. En tout cas sur le plan de l'écriture, mais c'est très décourageant. Une fois qu'on a refermé ça, je pense qu'on n'est pas très bien avec le monde dans lequel on se trouve. Donc il y a déjà beaucoup de raisons de ne pas être bien, c'est pas pour le dire avec tout le monde, je cherche à ne pas en rajouter. Voilà. En tout cas, Wilhelm Flusser écrivait dans les années 80, il est mort dans un accident de voiture au début des années 90, si mes informations sont bonnes, et il avait écrit un texte en 20 chapitres qui commencent tous par notre rythme, notre habitation, qui sont une sorte de tableau de nous aujourd'hui, et c'est très étonnant parce que bien que ça ait été écrit avant les années 90, on a quand même l'impression qu'il avait déjà en vue le développement du monde informatique, des réseaux, etc. De ce point de vue-là, c'est tout à fait troublant, disons. Donc voilà, je voudrais vous parler un petit peu de Flusser, dont le texte en question a été retrouvé et édité en 2019, donc il n'y a pas très longtemps, par quelqu'un que vous connaissez, en tout cas que je connais bien, qui s'appelle Anthony Mazur, et qui a donc, c'est Catherine Gell qui a publié ça dans sa maison d'édition, donc le livre de Wilhelm Flusser, Post-histoire. Alors, dans Post-histoire, tous les textes sont structurés en faisant une espèce de bilan de la situation dans laquelle nous nous trouvons, vivant par rapport à deux étapes antérieures de la vie sociale. Pour Wilhelm Flusser, il y a donc trois grands moments de l'histoire de la société qui sont bien des moments successifs qu'il appelle le plus couramment, c'est cette appellation qu'il donne, la société agraire ou pré-industrielle, la société industrielle et la société post-industrielle, ou l'état post-industriel de la société, si vous voulez, qui est la société ou l'état dans lequel, pour lui, nous nous trouvons aujourd'hui. Alors, je vais vous lire, si vous voulez bien, un passage de Flusser pour définir donc la société que lui appelle post-industrielle et que vous voyez un petit peu de quoi il s'agit. Le passage, écrit-il, c'est page 58 dans son livre, le passage de la société industrielle à la société post-industrielle est un bouleversement ontologique. En apparence, il n'y aurait qu'un changement de proportion à l'intérieur de la division du travail. Dans l'agriculture, le plus grand nombre travaille dans les champs, un petit nombre dans les boutiques et un nombre moindre dans l'administration. Dans l'industrie, donc deuxième période historique de la société selon Flusser, dans l'industrie, ou si vous voulez, comme dit ailleurs, dans le moment industriel de la société, pas dans la société industrielle, le plus grand nombre travaille à l'usine, un petit nombre dans les champs et un nombre moindre dans l'administration. Dans la société post-industrielle, le plus grand nombre travaille dans l'administration, le secteur tertiaire, entre guillemets, et traitement de données, c'est ça qui est le contenu de l'administration pour Flusser. Hein. Donc, dans la société post-industrielle, le plus grand nombre travaille à l'administration. Et quels sont les autres noms de l'administration pour lui, c'est secteur tertiaire ou le secteur dans lequel on traite les données. Donc, dans la société post-industrielle, le plus grand nombre travaille dans l'administration, un petit nombre à l'usine et un nombre moindre dans les champs. Un tel changement des proportions implique une mutation de la structure du travail dans son ensemble. Ce n'est pas simplement un rééquilibrage. Il y en a plus qui travaillent dans l'administration, moins dans le secteur agraire, etc. Ce n'est pas simplement un changement dans les proportions qui distingue les trois étapes de la société. Vous l'avez entendu, je vous l'ai lu, il l'a dit quelques minutes plus haut. C'est un changement véritablement ontologique, c'est-à-dire un changement qui implique une mutation de la structure du travail dans son ensemble. La société industrielle a industrialisé et l'agriculture et l'administration. La société post-industrielle va fonctionnariser l'agriculture et l'industrie. Donc, pour Flusser, alors ça se répète de texte en texte dans ce livre-là, et d'ailleurs dans d'autres de Flusser, la période, si vous voulez, post-industrielle, c'est une période qui ouvre le champ à une sorte de travail qui, au fond, n'existait pas dans les époques antérieures, et qui est, c'est dans le temps de mots, le travail du fonctionnaire, la fonctionnarisation des tâches. Alors, je ne pense pas qu'il faille prendre ça au premier degré comme une attaque contre les fonctionnaires. Bon, si on discute tout à l'heure, je vous dirais que pour moi, fonctionnaire, ce n'est pas du tout un gros mot. Je ne pense pas que Flusser veuille dire non plus qu'on a trop de fonctionnaires au sens où, disons, certains hommes politiques dans certaines campagnes électorales disent des choses comme ça. Je pense qu'il faut le prendre plus théoriquement et plus philosophiquement en disant les tâches se fonctionnarisent. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Je vous lis encore deux ou trois phrases de Flusser. La société post-industrielle, donc, fonctionnarise et l'agriculture et l'industrie. Une nouvelle ontologie fondée sur une nouvelle praxis est en train de s'établir. Pour la comprendre, il faut suivre la praxis du fonctionnaire. Alors, qu'est-ce qu'un fonctionnaire? Comment travaille un fonctionnaire? Il est assis derrière une table, il reçoit des papiers recouverts de symboles, de lettres et de chiffres, d'autres fonctionnaires le lui ont fourni. Il les classe ou il les jette. Il remplit d'autres papiers avec des symboles. Ces papiers-là, il les transmet à d'autres fonctionnaires. Il est donc récepteur, transmetteur et émetteur de symboles. Autrement dit, qu'est-ce que la société post-industrielle ? C'est une société qui fait son miel du travail, d'un mode de travail pour lequel le nom convenable selon Fusser est fonctionnaire. Et qu'est-ce que c'est qu'un fonctionnaire ? C'est quelqu'un qui est récepteur, transmetteur et émetteur de symboles. Donc, évidemment, Fusser ne connaissait pas le monde des réseaux comme nous aujourd'hui, mais je pense que si on prenait la phrase que je viens de vous lire pour, décrire dans son langage à lui ce que nous faisons à chaque fois que nous manipulons un smartphone, il ne serait pas Fusser surpris. C'est de ça qu'il s'agit. Hein. On reçoit, on transmet et on émet des symboles. Ça, c'est ce qui serait l'essentiel des activités de la société post-industrielle. Bon, je pense en faisant cette lecture, vous avoir un tout petit peu informé de ce que pouvait penser quelqu'un comme William Fusser, lequel écrivait, donc là j'en viens à mon propre discours, si vous voulez, pour ce soir, dans le même livre, un petit peu plus loin, pas tellement plus loin, un petit peu plus loin, il écrit ceci. Donc, nous sommes dans la société post-industrielle, hein, celle qui a développé comme jamais la fonctionnarisation, le travail de récepteur, transmetteur, émetteur de symboles. Dans cette société-là, écrit Fusser, il n'y a pas de place pour un marché, il n'y a pas de république. Le moindre espace est déjà occupé par les masses médias et l'opinion publique. Donc, c'est ça que je voudrais travailler ce soir. Ces trois phrases que je viens de vous lire, elles sont dites d'un seul coup dans le texte de Fusser. Elles sont successives, hein, j'ai rien coupé. Il n'y a pas de place pour un marché, il n'y a pas de république, le moindre espace est déjà occupé par les masses médias et l'opinion publique. Alors, évidemment, moi, quand j'ai lu ça, j'ai tout de suite pensé au séminaire tome 2 que je m'étais mis dans la tête de préparer, le moindre espace est déjà occupé par les masses médias. Hein, ce qui faisait écho à, non pas que Fusser soit arendtien, mais dans mon esprit, ça faisait écho éventuellement à ce que je pouvais peut-être déduire de la lecture de texte d'Arendt, c'est-à-dire, et que j'ai rappelé tout à l'heure en commençant, le moindre espace est déjà occupé, ça veut dire qu'il n'y a plus d'espace. Un espace occupé, c'est un espace bouché, dans une certaine mesure, rempli. Et donc, il n'y a plus d'espace. Le moindre espace occupé, ça veut dire qu'il n'y a plus d'espace. Et ce qui, tuerait, dans une certaine mesure, l'espace dans la société post-industrielle au sens de Fusser, c'est que c'est occupé par les masses médias et l'opinion publique. Je voudrais suivre un petit peu le fil de ce propos-là ce soir et m'en détacher en fin de séance. Un peu plus loin dans le même ouvrage, toujours, Fusser décrit le cinéma comme un lieu qui simule, je le cite, le théâtre, mais qui n'est pas théâtre, car, dit-il, l'émetteur du message ne fait pas face au récepteur. Donc, on pourrait dire, vous allez peut-être mieux comprendre tout à l'heure, je dirai un autre passage, peut-être qu'on concrétisera. Je pourrais le dire peut-être plus simplement tout de suite. Donc, la société post-industrielle, c'est une société de fonctionnaires, premier trait caractéristique. Deuxième trait, c'est une société dans laquelle le moindre espace est occupé par les masses médias et l'opinion publique. Du coup, il n'y a pas de république et il n'y a même pas de marché, en tout cas au sens ancien du terme. Hein. On verra tout à l'heure, il n'y a plus de marché, mais il y a des supermarchés. Hein, j'ai bien. Donc, deuxième trait, selon Fousser, de la société industrielle, c'est une société dans laquelle le moindre espace est occupé par les masses médias. Et le troisième trait, sur lequel je vais m'arrêter un petit peu, c'est une société qui a développé en lieu et place des théâtres d'autrefois, des cinémas, des salles de cinéma, qui sont des endroits, pour Fousser, où le théâtre est simulé, hein, le cinéma est un lieu qui simule le théâtre, mais qui n'est pas un théâtre pour cette raison que l'émetteur du message ne fait pas face au récepteur. Donc c'est peut-être aussi une caractéristique de la société post-industrielle remplie de fonctionnaires qui sont, je vous l'ai lu, hein, des émetteurs, des récepteurs, des transmetteurs et des émetteurs de messages, c'est que ces récepteurs et ces émetteurs ne se font pas face. Le fonctionnaire est quelqu'un qui ne fait pas face à ses... Alors, ce n'est plus des interlocuteurs, dans une certaine mesure. Mais ça, c'est le point sur lequel Fousser va beaucoup insister. Dans la société post-industrielle, il n'y a plus, je simplifie la lecture, de face à face. Je pourrais dire, peut-être, il n'y a plus d'affrontement au sens précis du terme. Affronter, ça veut dire front à front. Hein. Se regarder dans les yeux, c'est s'affronter. Et c'est vrai que dans l'idée de l'espace public qu'avait Hannah Arendt quand on la lisait l'année dernière, il y avait quelque chose de ce type-là. Dans l'espace public, il faut être capable d'affronter ses égaux, les autres qui sont ses égaux. Les affronter, ça veut dire leur parler face à face dans une situation de dialogue. Donc, ce qu'on va trouver dans la société post-industrielle, selon Fousser, c'est par exemple des cinémas qui ne sont pas des lieux de théâtre et qui ne sont pas non plus des lieux de dialogue. D'ailleurs, le dialogue, l'espace pour le dialogue disparaît, il n'y a plus de place publique, etc., etc. Toujours selon Fousser. Alors, je vais retenir pour ce soir cette thématique du face-à-face. Dans le monde où il y a des cinémas, l'émetteur des messages ne fait pas face au récepteur. Et d'ailleurs, dans le cinéma lui-même, il y a bien, quand on est en train de regarder un film dans une salle de cinéma, il y a bien émission de messages, mais il n'y a personne qui nous fait face, il n'y a aucun émetteur qui nous fait face, disons, personnellement, quand vous êtes, vous, dans la situation de récepteur du message. Autrement dit, la situation de face à face, cette façon de se situer, n'est plus dans la société post-industrielle, selon Fousser, déterminante. Dans cette société, dans ce moment historique-là, il y a un retrait, explique Fousser à plusieurs reprises dans son ouvrage, des situations dialogiques. Et ce retrait des situations dialogiques, c'est donc ce que manifeste à sa façon le succès dans l'architecture urbaine des salles de cinéma. Et c'est vrai que quand on aménage un quartier dans Paris aujourd'hui, par exemple, toute la bande qui suit le boulevard des Maréchaux, disons, entre la porte de la Villette et la porte, je ne sais plus laquelle, après Aubervilliers, etc., et tout ça, ça a été refait il n'y a pas si longtemps, et on y a bien construit de prestigieuses, de manifestes salles de cinéma et pas de théâtre. On peut dire que Fousser a raison. Le monde dans lequel nous sommes est un monde qui fait place dans ses constructions à des grands complexes cinématographiques, pas à des théâtres, et c'est significatif du retrait des situations dialogiques, des situations de face à face, etc. Dans les salles de cinéma, dit Fousser, je le cite, « Dès l'entrée, on se retrouve dans un espace géométrique arithmétiquement ordonné. » Alors, il y a le mot « espace » là dans le texte, mais si je le lis avec la grille conceptuelle qui est la mienne depuis un an, je dirais que, justement, et on va le voir dans une seconde, quand je vais vous lire la phrase suivante, je dirais qu'en fait, il n'y a pas d'espace. Il y a le mot « espace » dans le texte de Fousser, mais pas la notion. Pourquoi ? Parce qu'on est dans quelque chose qui est géométrique et arithmétiquement ordonné. Donc nous pouvons peut-être, pour nos réflexions, nous mettre de côté cette idée qu'il faudra peut-être reprendre, pas ce soir, mais une autre fois, un jour prochain, que peut-être que, comment dire, à quoi pourrait-on voir qu'on est dans un espace, peut-être au fait qu'il y a quelque chose qui n'est pas arithmétique et géométrique, qui n'est pas ordonné tout à fait selon des lois géométriques ou en tout cas arithmétiques. Bon, on y reviendra. Donc, je lis, dans les salles de cinéma, dès l'entrée, on se retrouve dans un espace géométrique arithmétiquement ordonné. Les choses étendues, des chaises en rang, munies de chiffres. Un espace cartésien. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais justement, chez Zimmel, le texte inaugural du séminaire l'année dernière, il y avait le mot « étendu » et j'avais commenté le mot « étendu » en disant, au fond, Zimmel nous invite à penser l'étendue comme l'espace cartésien défini en latin par « partes extra partes », c'est-à-dire chaque chose, toute chose à côté d'une chose, et ainsi de suite, indéfiniment. Les choses les unes à côté des autres, « partes extra partes », définition de l'étendue chez Descartes. Eh bien, nous y revenons cette année. Donc, ce que dit Zimmel, c'est que le cinéma, c'est un espace cartésien, c'est-à-dire en fait une étendue, et non pas un espace pour nous, dans nos concepts. Il y a des chaises en rang, munies de chiffres. C'est un espace cartésien. Néanmoins, dit Fusser, il ne s'agit pas d'une adéquation de la chose pensante à la chose étendue. Donc ça, c'est une allusion à la philosophie de Descartes, hein, qui consiste à dire que la chose qui pense, la res cogitans, l'esprit, si vous voulez, peut avoir des idées qui sont adéquates à la réalité, à la chose étendue. Que dans ces cas-là, on est dans la vérité. Je ne vais pas commenter ça longtemps. Enfin, je pourrais un peu si vous en avez besoin. Mais c'est peut-être pas le cœur de la réflexion de ce soir. Ce qui m'intéresse, c'est les mots, de retenir les mots. Il ne s'agit pas d'une adéquation de la chose pensante à la chose étendue. Alors, quand le spectateur s'assoit confortablement sur sa chaise et s'allonge pour recevoir le message, il se convertit lui-même en chose étendue. Donc, qu'est-ce qui se passe au cinéma au Flusser ? C'est que chacun d'entre nous qui vient s'asseoir et même un peu quand même s'affaler dans son fauteuil, hein, s'allonger dans le fauteuil, devient à ce moment-là, cesse d'être une chose pensante, au fond, et devient une chose étendue. C'est comme si nous nous étendions nous-mêmes, c'est-à-dire nous quittons le monde de l'espatialité, dans le langage qui est le mien.
Pierre Damien, excuse-moi, je t'interromps. Excuse-moi de t'interrompre, Pierre Damien, mais apparemment, il y a Wafa qui est en salle d'attente et je me demande s'il n'y a pas d'autres personnes et moi je vois pas. Donc je me demande si je suis peut-être plus animateur et dans ce cas, pour éviter de t'interrompre, si tu peux me remettre animateur, est-ce que toi tu vois bien les demandes ? Je me dis, il y a peut-être d'autres personnes même qui attendent.
Non, il n'y en a qu'une. J'en ai vu qu'une. Ce soir, il
n'y avait pas. Oui, c'est bon, je suis co-animateur, donc je devrais voir les demandes.
D'accord.
Merci de m'avoir accepté, bonsoir.
Bonsoir. Excuse-moi.
Non, mais tu as bien fait, sauf que... Ah oui, alors j'en étais au spectateur de la salle de cinéma telle que décrite par Fusser, qui s'assoit confortablement sur sa chaise, s'allonge pour recevoir le message, et faisant cela, par cela au fond signalant qu'il se convertit lui-même en chose étendue. Alors, je relève évidemment cette référence à l'étendue, puisque depuis le tout début de ma réflexion dans ce séminaire, j'oppose cette notion d'étendue à celle d'espace. Selon Fusser, les sujets humains, alors si ce mot convient, vous savez que le mot sujet est ambigu, parce que si c'est le sujet de la phrase, c'est lui qui gouverne, hein, le verbe et ce qui s'ensuit, les sujets, ça peut aussi vouloir dire l'être assujetti. Et dans ce cas-là, le sujet du roi, c'est plutôt l'objet du pouvoir. Bon, alors, Pour Fusser, si le mot sujet convient, encore, les sujets qui se meuvent à l'époque du cinéma, au fond, se déspatialisent quasi physiquement. L'espace ne serait donc pas seulement occupé, comme nous le disions tout à l'heure, par les institutions médiatiques, il disparaîtrait même en tant qu'instance psychique. Nous ne serions même plus, en tant que supposé sujet, habité par l'instance du sujet qui se déplace dans un espace constitué de la différence entre vie privée et vie publique. Être converti en chose étendue, pour reprendre la formule de Flusser, cela veut dire, ou cela voudrait dire, étant donné l'allusion à Descartes qui pointe manifestement dans le passage que je vous ai lu, ça voudrait dire devenir l'objet d'une pensée extérieure que Flusser nomme à plusieurs reprises par le mot de programme. Ce qui caractérise ou caractériserait l'être humain ou le mode humain, le mode d'humanité propre à la société post-industrielle, c'est que nous y sommes programmés. Nous n'y sommes pas sujets au sens classique du terme, mais nous y sommes programmés, nous sommes toujours les objets d'une pensée qui est extérieure à nous-mêmes. Nous ne serions même plus nous-mêmes des sujets psychiques, c'est-à-dire des esprits ou des choses pensantes. Nous sommes devenus nous-mêmes des sortes de petites étendues, si on peut dire individuelles, des petits atomes d'humanité qui s'étendent les uns à côté des autres. Le programme, chez Flusser, n'a pas de sentiment pour les sentiments des récepteurs. On a vu ça tout à l'heure, nous serions des fonctionnaires, c'est-à-dire des récepteurs, transmetteurs, émetteurs de messages. Et en fait, en tant que récepteurs, qu'ils finissent par transmettre ce qu'ils ont reçu et émettre à partir de ce qu'ils ont reçu, nous sommes en fait programmés, nous serions programmés, et nous sommes sans que quoi que ce soit de sentimental intervienne dans l'affaire. C'est pourquoi je vous propose cette façon de dire, d'expliquer le texte de Flusser, pas de le justifier, de l'expliquer, ce programme, le programme qui programme les fonctionnaires de la société post-industrielle n'a pas de sentiment pour les sentiments. Ainsi, par exemple, le film a-t-il une logique interne qui est prédisposée et qui peut dérouler dans l'indifférence? On peut dire, on vient de le lire, le cinéma, c'est pas le théâtre. Alors, au théâtre, vous n'êtes pas que un corps étendu sur un fauteuil en train de réceptionner le spectacle. Vous pouvez vous manifester, vous pouvez siffler, vous pouvez applaudir, vous pouvez, comment dire, par votre façon d'être attentif, de faire du bruit ou pas, votre façon de faire du silence, avoir une influence sur l'émission elle-même en train de se produire. On est dans une logique, par conséquent, dans une relation, par conséquent, dialogique, où il y a du face-à-face, de l'affrontement entre ce qui est sur scène et ce qui est dans la salle. Au cinéma, vous pouvez toujours siffler le film qui se déroule devant vos yeux, vous pouvez l'applaudir, peu importe, il continuera à aller au bout de son programme. Donc, c'est la thèse de Flusser. Dans ce monde-là, comment dire, c'est de dire dans ma phrase, il n'y a pas de sentiment pour les sentiments. Il n'y a pas de place pour les sentiments. Alors, je suis obligé de dire, vu que j'ai fait un séminaire un peu public, quelque chose qui n'est pas forcément dans comment dire, les connaissances qui sont peut-être les vôtres, qui sont des connaissances que j'emprunte à l'histoire de la philosophie. Il me semble quand même, je vais le dire, que avec cette façon d'analyser les choses qui est celle de Flusser, nous sommes chez Leibniz au moins autant que chez Descartes. Nous sommes chez Leibniz tel que je le comprends, en tout cas au moins autant que chez Descartes. Le monde d'aujourd'hui est, selon Flusser, rempli de fonctionnaires et donc, ajouterais-je pour ma part, de fonctionnement. S'il y a des fonctionnaires, c'est parce qu'il y a des fonctionnements. Peut-être d'ailleurs, si on disait les choses comme ça, on commencerait à décaler un petit peu. de la description. Enfin bon, je signale au passage, le monde d'aujourd'hui, selon Fusser, est rempli de fonctionnaires et donc, me semble-t-il, aussi de fonctionnement. Et cette situation exclut que des personnes, ou exclurait que des personnes, des personnalités, des personnes, ne se demandent entre elles quoi que ce soit. Elles n'ont pas à s'organiser, les personnes de la société post-industrielle, elles sont organisées, toujours selon Fusser. Ou si vous préférez, elles sont mises en cohérence extérieurement à ou au-delà de leur subjectivité. En ce sens, c'est pourquoi je parlais à l'instant de Leibniz, ce sont bien des monades sans porte ni fenêtre, selon la fameuse formule de la monadologie que, comme vous savez peut-être, Voltaire a raillé dans son Candide. Des monades sans porte ni fenêtre, selon la fameuse formule de la monadologie, c'est-à-dire des êtres dont l'historicité et la puissance d'événementialité, c'est-à-dire la capacité à faire quelque chose au monde et à s'y activer avec quelques conséquences, dépend de cette capacité à faire histoire, à faire événement. Et en fait, qu'est-ce que c'est faire événement ? C'est je fais quelque chose au monde, je m'y active, et ça n'est pas sans conséquences pour vous, peut-être plus ou moins directement, et réciproquement, vous faites quelque chose au monde, vous vous y activez, et ça n'est pas sans conséquence pour moi. Là aussi, ça serait une façon de décrire la situation dialogique. Eh bien, dans l'analogie, il me semble que dans le monde auquel pensait Leibniz, il n'y a pas cette situation. Chacun n'est pas une puissance d'événement, une puissance d'activation de l'histoire. Non, ce qui se passe dans le monde dépend de positions pré-réglées dans le plan divin, disait Leibniz. Donc, je pourrais dire, moi, dans un plan global, ou Fusser dirait, dans le plan global qui programme les composantes de la société post-industrielle, composantes qui, à leur tour, programment les fonctionnaires qui fonctionnent dans cette société sans participation particulièrement sentimentale à tout ça. Enfin, bref, ce que j'ai décrit depuis quelques minutes. Donc, ce monde-là, fusserien, me semble plutôt ressembler au monde de la monadologie de Leibniz, où donc la puissance d'événementialité de chacun dépend en fait de la position dans un plan global qui, à chaque instant, selon la formule de Leibniz, n'est pas le meilleur, mais le meilleur possible. Ce n'est pas tout à fait la même chose. La sorte d'expérience monadique que Fusser décrit au cinéma, sachez-le, il en repère aussi au supermarché. Alors, je vais vous lire un passage de Fusser concernant le supermarché, qui est en fait le pendant ou le complément pour lui de la salle de cinéma. Alors, est-ce que je retrouve le passage ? Le propos du supermarché, ça y est, excusez-moi, le propos du supermarché n'est pas de permettre l'échange, mais bien d'emprisonner la masse pour la plier à un comportement de consommation au moyen de ses discours impératifs. Tu es là, tu dois acheter. Sa méthode, la méthode du supermarché, est celle de la persuasion perfide, l'une des méthodes préférées de la programmation. Je pense que c'est quand même intéressant, même si ce pessimisme radical, il me semble qu'il va falloir essayer que nous nous en dépêtrions, mais il y a quand même l'idée que je trouve intéressante, la méthode majeure du supermarché, c'est la persuasion perfide, c'est-à-dire le monde dans lequel se multiplient les émissions-réceptions de messages, les émissions de messages, ce monde-là est un monde qui a recours non pas au dialogue, mais au discours, et en particulier même au discours perfide. On va dire, il y a quelque chose de pervers. Pas séduisant, mais séducteur. Tu es là, tu dois acheter. La méthode du supermarché est celle de la persuasion perfide, l'une des méthodes préférées de la programmation. Le supermarché est un appareil qui simule la République pour séduire les citoyens et les plier à une manipulation qui les convertit en objets. Donc ça simule la République au sens où, dans un supermarché, qui ne s'estime pas libre d'acheter ce qu'il veut. Et pourtant, en réalité, dit Flusser, vous êtes dans un appareil qui programme vos attitudes de consommateur. Le cinéma est l'autre face du supermarché. Ses entrées sont d'étroits défilés devant lesquels font la queue ceux qui ont envie d'être initiés au mystère. L'animal mythique qu'on appelle la masse est muni de deux extrémités et il fait une des deux queues au supermarché et l'autre devant le cinéma. Le futur récepteur du message filmique sacrifie à l'entrée du cinéma une obole qui est la même qu'il sacrifie à la sortie du supermarché. Côté pile, supermarché, côté face, cinéma. Mais du cinéma, on sort librement. Les sorties du cinéma s'ouvrent amplement. Le programme est terminé. De ces sorties s'écoule, amorphe la masse programmée. Elle se disperse en gouttes, en hommes de la masse, pour s'agglutiner à nouveau sous forme de queue dans les supermarchés. Pendant son écoulement entre la sortie du cinéma et l'entrée du supermarché, la masse est formée et informée par des canaux, le métro, le bus. Ce sont de telles structures qui rythment la vie, je complète, de l'humain, de la société post-industrielle. Vous avez la description flusserienne donc du supermarché qui complète par conséquent l'expérience du cinéma. Donc je dirais que la même sorte d'expérience nous attend au cinéma et au supermarché. Dans les deux cas, ça exclut le face-à-face, et dans les deux cas, la fonctionnalité ne repose pas sur l'affrontement, au sens littéral du mot, des capacités à envisager, même je dirais, pourquoi pas, dévisager, se dévisager les uns les autres. Ce sont des choses qu'on ne fait pas dans la société, en tout cas au supermarché et au cinéma. Ni on ne se regarde au cinéma, ni on ne discute. Quant au supermarché, certes, on peut s'y voir et y échanger quelques mots, mais ni ces vues, ni ces mots n'engagent véritablement les personnes que nous sommes. C'est-à-dire, nous échangeons, si nous échangeons des mots au supermarché, ce sont des échanges indifférents à notre propre existence sentimentale. C'est qu'à vrai dire, dans ces endroits, nous n'y sommes pas personnellement, mais fonctionnellement. Est-ce que, alors, la question que je voudrais poser, donc j'en ai terminé avec la lecture, enfin pas tout à fait, de Flusser, la question que je voudrais poser, c'est est-ce que ce type de description pessimiste décrit le monde qui nous attend vraiment? Est-ce que ça décrit tout le monde dans lequel nous sommes effectivement? Le sens de ma réponse, ce que je vais chercher cette année, c'est à répondre négativement à cette question. Moi, je rappelais en commençant, je cherche les qualités de la société et non pas les défaillances. Même s'il faudra plus tard chercher aussi ou revenir sur ce qui défaille dans la vie sociale contemporaine. Mais pour commencer cette année, je voudrais dire la description terrible que nous venons de voir chez Flusser, n'est pas nécessairement la description du monde dans lequel nous sommes ou du monde qui nous attend, monde dans lequel, par hypothèse, se développeraient, comment dire ça, les communications contemporaines, les modalités contemporaines de la communication. Si le développement de la vie sociale contemporaine absente les situations dialogiques circulaires où pouvaient s'organiser des discussions en face à face, s'il favorise en conséquence les côtoiements et l'être à côté les uns des autres, ne sommes-nous que tristement condamnés à l'extension de cette expérience-là. S'il est vrai que le supermarché, ça se passe quand même plutôt comme diffuseur, s'il est vrai qu'on peut produire la description de la salle de cinéma qu'il produit, qui n'est peut-être pas la seule description possible, mais tout de même une description possible, est-ce que nous sommes tristement condamnés à l'extension de ce genre d'expérience que nous venons de voir? Je vous lis un dernier passage de Fousseur pour ce soir. Il évoque la solitude dans la masse. La solitude dans la masse dont on se plaint n'est pas l'effet d'un tissu communicatif pauvre. Au contraire, jamais ce tissu n'a été aussi riche qu'aujourd'hui. Jamais il n'y a eu autant de communications faites de discours comme ceux que distribuent les masses médias et la science. La solitude dans la masse est l'effet des difficultés grandissantes que nous éprouvons pour dialoguer les uns avec les autres. Sous le pilonnage quotidien des discours impeccablement distribués, nous disposons tous d'une masse d'informations la même pour tous. Ainsi, tout échange dialogique de ces informations est une redondance. La redondance est la partie d'un message qui est déjà contenu dans la mémoire du récepteur. Qu'est-ce que dit là Fousseur? C'est que dans le monde des appareils fonctionnels, enfin, ce monde, il y a des supermarchés, des salles de cinéma, enfin, tout ce que je vous ai dit depuis que j'ai commencé à parler ce soir, dans ce monde-là, où on peut d'ailleurs avoir un sentiment de solitude, être solitaire ou seul dans la masse, dans ce monde-là, il y a beaucoup de discours, j'avais dit en passant tout à l'heure, pas de dialogue, mais beaucoup de discours. Et en fait, dans les communications, nous nous adressons des informations qui sont redondantes, qui sont les mêmes pour tous. C'est-à-dire, alors on voit ça, Fusser écrivait bien avant les réseaux sociaux, etc., mais quand même, on voit ça beaucoup, c'est-à-dire, comment dire, on va être invité, par exemple, aujourd'hui, à entrer en communication. Vous savez, c'est la fameuse formule qu'on trouve sur les sites qui s'adressent à nous. Ceci pourrait vous intéresser. Hein, c'est-à-dire, en fait, ça vous renvoie à quelque chose qui est déjà dans votre champ d'information. Hein. Et bah, nous parlons de ce que nous avons entendu les uns les autres à la radio. C'est-à-dire, en fait, nous répétons ce que les uns et les autres déjà nous savons parce que nous sommes, en effet, informés, abreuvés de discours. Donc, au passage de ce dernier texte de Fusser que je vous lirai ce soir, vous entendez le statut conceptuel de la différence entre dialoguer et discourir. Alors, ma question est celle-ci. Est-il vrai que dans un monde où le champ social de l'existence se développe, nous sommes condamnés à ne pas pouvoir dialoguer, à être simplement des récepteurs et des transmetteurs de discours qui sont au fond déjà tout faits? Est-ce que nous pouvons, autrement dit, penser que le social n'est pas voué à seulement étendre sa façon de s'occuper de nous, comme on a vu jusqu'à présent ce soir? Est-ce que nous pouvons penser qu'il n'est pas voué à seulement s'étendre et, en s'étendant, à incorporer toujours à lui un peu plus nos esprits? Voilà. Nous avons autour de nous, par exemple, la pensée de Fusser, mais c'est pas la seule, une pensée très critique, apparemment très critique de la société, qui au fond revient à dire ça. Là, cette fois, c'est moi qui parle. Il me semble que ces pensées disent en substance la société, c'est ce qui nous incorpore de plus en plus. Et donc, c'est ce qui laisse de moins en moins de place à la vie personnelle, à la vie individuelle, ou quelque chose de ce type-là. Hein. Et donc, on pourrait avoir une espèce de, comment dire ça, on valorise, quand on pense les choses de cette manière, un mode d'existence qui se plaint, dans une certaine mesure, de l'extension de la vie sociale, tout en pensant peut-être que cette vie sociale, on ne peut pas s'en passer. Donc, ça nous met dans une espèce de double contrainte, de ne pas pouvoir désirer ce dont nous ne pouvons pas nous passer. C'est ce que je mets, comme je peux à l'instant, dans ma formule, sommes-nous condamnés à penser négativement la société, c'est-à-dire sommes-nous condamnés à penser la société ou la vie sociale comme quelque chose qui s'étend de plus en plus, incorporant de plus en plus le reste de la vie humaine, par exemple la vie privée et la vie publique, incorporant de plus en plus ces modes d'existence qui sont peut-être hérités de plus loin, venant plus archéologiques, plus archaïques, plus antiques. Est-ce que nous sommes condamnés à ça? Alors, je dirais que c'est du cinéma même que je vais tirer, pour ce qui me concerne, ma première source d'optimisme. Donc, je quitte le monde de Foussère et j'en viens à mes propres suggestions, si vous voulez bien. Du cinéma même peut venir, m'est venue à moi en tout cas, une image plus dynamique et je dirais même plus turbulente de la vie sociale, qui peut-être du coup fait de la vie sociale une vie vivante, une vie vivace, et pas quelque chose qui nous programme, qui nous entoure, qui nous indéfinit dans une certaine mesure, nous assujettit, nous transforme en choses étendues, etc., etc. Ce à quoi je pense, ça s'est bien passé comme ça, je vous l'assure, c'est pas seulement pour préparer ce séminaire, c'est quelque chose qui me travaille depuis longtemps. Ce dont je vais vous parler maintenant m'est venu lorsque j'ai vu plusieurs plans d'un film qui a été tourné en 1929 et qui est sorti en 1930, muet encore, qui s'intitulait « Les hommes le dimanche », qui est souvent crédité à Robert Siodmak, mais en fait, ils étaient plusieurs, qui ont ensuite émigré, vous imaginez pourquoi, ils étaient allemands et juifs, et donc ils sont partis aux États-Unis. Robert Siodmak est devenu un cinéaste, Billy Wilder faisait partie de l'équipe qui a fait ce film, ils étaient plusieurs. Bon, bref, Les hommes le dimanche, film étrange que, si vous allez sur Wikipédia, ils ne savent pas comment le classer, ils disent que c'est une comédie dramatique et un documentaire. C'est un film muet qui a été tourné dans les rues de Berlin avec des gens qui jouent leur propre rôle, qui jouent dans le film le rôle qu'ils ont dans la vie, c'est-à-dire on appelle ça aujourd'hui des comédiens amateurs, films tout à fait non professionnels, enfin, etc. Bon, Les hommes le dimanche. Dans ce film-là, dans l'espace du cadre, je dirais que lorsque la ville de Berlin est filmée, ça va et vient dans tous les sens. Il y va d'un ensemble agité de mobiles et de mouvements. Alors, il m'a été donné de travailler sur ce film avec des gens de Grenoble, de la Cinémathèque de Grenoble, et j'avais été interrogé pour une publication en 2015. Et j'ai trouvé plus simple pour ce soir de vous relire l'introduction de cet entretien qui avait été publié en 2015. Je disais ceci. Le film ne se réduit pas, loin s'en faut, à une histoire racontable concernant des personnages. Il montre, il fait voir, bien plus qu'il ne raconte, ce que j'appellerais une urbanité. Cette urbanité, il la lie à la ville, il la lie à une ville, pardon, qui à aucun moment n'est surplombée. Il ne voit pas de loin. Le film traverse la ville, certaines séquences étant seulement observatrices ou descriptives, de quartiers ou d'endroits, les uns populaires, les autres bourgeois, les uns voués aux activités, au commerce, les autres aux habitations. Un parc et un plan d'eau sont également filmés. Angle et lumière varient. La traversée est aussi temporelle. Le vendredi soir, quand finit le temps de travail, on s'intéresse à des êtres d'abord situés au sein d'une foule alerte pour les rendre ensuite, en effet, personnages dans le film d'un peu d'histoire. Puis on les suit durant le week-end et jusqu'à la reprise du lundi matin. Au moment de l'entrée en vacances, au sens strict du mot, hein, les vacances, c'est-à-dire le moment où, comment dire, vacent hors du travail. Le travail est vacant. Hein. Donc, au moment des vacances, c'est-à-dire le week-end, les hommes, le dimanche, hein, au moment de l'entrée en vacances, donc on est à ce moment-là au début du film, les images sont très mobiles. Ça va en tous sens, dans un même plan, de gauche à droite, de droite à gauche, selon des lignes de pente diverses, plus ou moins diagonales. Ça va aussi d'avant en arrière, d'arrière en avant, etc. Trolley et voiture se croisent, les piétons aussi, chaque pièce de cette mobilité générale ayant en outre sa vitesse particulière. Les mouvements de caméra et les points de vue sont eux-mêmes multiples. Quand les Berlinois reprennent le travail, le mouvement, cette fois, s'ordonne en fil. Il n'y a autrement qu'un moment du dimanche, sorte de contrepoint où on voit les gens marcher comme au pas, dans le même sens, avec quelque chose de militaire et de religieux à la fois. Le reste du temps, dans le film, les déplacements dans l'image sont, comme les mouvements de la caméra, multiples. On peut voir un trolley et des voitures aller en même temps dans des directions différentes. Le mouvement dominant peut être un instant de gauche à droite, quand dans le plan suivant, il sera de droite à gauche ou de l'avant vers l'arrière, etc., etc. Donc, le film présente, sauf dans quelques plans où il y a un défilé de gens qui ne marchent pas, présente une grande mobilité. La ville est présentée par ce film comme étant un endroit de grande mobilité. Le film, j'ai fini avec ma citation, hein. Le film n'est pas tourné en studio. En ce sens, il procède bien d'une observation visuelle de la ville. C'est un film qui observe visuellement la ville. En fait, il repère trois sortes de sociétés qui ne sont pas des sociétés successives historiquement, mais qui sont bien des sociétés contemporaines. Ce sont trois états de socialité dans la même société. Donc je dis ça parce que chez Flusser tout à l'heure, on était dans des états successifs, hein, la société pré-industrielle, industrielle et post-industrielle. Là, on a, dans le même moment historique, le film est tourné à un moment précis, 1929, dans Berlin, on a trois modes de socialité qui sont exactement contemporains, hein, cum tempus, du même temps, du même moment. Donc trois sortes de sociétés contemporaines les unes des autres, et qui se distingue par le degré de liberté des mouvements qui se déploient. Donc, il y a dans la même société des moments ou des endroits où il y a une grande liberté de mouvement, d'autres où il y a une moindre liberté de mouvement, et d'autres où il y en a même quasiment pas. Il y a la liberté, si j'ose dire, de mouvement. Qui n'est pas vraiment une liberté militaire, le défilé, quelques défilés qu'on voit dans le film. Il y a la modalité laborieuse, les gens qui vont dans le même sens ou à peu près convergent vers le tram parce qu'ils vont se rendre au travail, c'est-à-dire converger vers le même endroit, mais en venant d'endroits divers. Donc il y a le déploiement militaire de mouvement, le défilé, le déploiement laborieux de mouvement. Mais il y a aussi le déploiement plus libre où les mobiles humains, aussi bien que mécaniques, ne convergent pas et ne se rencontrent pas. Je pense qu'il y a toute une dynamique, autrement dit, de la société qui est liée à la non-convergence des mouvements dans le film. Les gens se croisent sans se rencontrer, de même que les mobiles, en général, dans le film, les trolleys, les voitures, les charrettes, etc., se croisent sans se rencontrer et donnent une image, je vais dire dynamique, hein, extrêmement mobile, de la vie urbaine. Ou par extension, dans mon langage de ce soir, de la vie sociale. Alors c'est cette dernière, donc je reprends ma formule, il existe plusieurs modalités de la société ou de la vie sociale dans le film. Le mode militaire, le défilé, le mode laborieux qui organise des convergences, on va tous travailler, se retrouver dans un endroit pour travailler, mais aussi la modalité plus libre, où les mobiles humains, aussi bien que mécaniques, ne convergent pas et ne se rencontrent pas. Alors c'est sur cette dernière notion que je viens de dire, la rencontre, en fait, une certaine façon de comprendre sans nuance la rencontre, qui, me semble-t-il, obère souvent l'analyse de la société. Autrement dit, je vais essayer de soutenir l'idée que nombre de discours critiques apparemment, en tout cas négatifs, en tout cas pessimistes, quant à la société, sont critiques, sont négatifs, sont pessimistes, parce qu'ils font fond sur une certaine idée de la rencontre qui serait, au fond, le nec plus ultra de l'existence humaine. Nous existerions pour nous rencontrer et par conséquent, tout endroit où nous ne nous rencontrerions pas serait au fond pour nous, si j'ose dire, nous les humains, de mauvais endroits. Or justement, la dynamique du film « Les hommes de le dimanche » m'aura donné, pour ce qui me concerne, à penser le contraire. Que peut-être la dynamique d'une ville, la dynamique par conséquent d'une société nombreuse, ça consiste à permettre que nous ne nous rencontrions pas. Alors je sais que c'est paradoxal, mais c'est quand même l'idée que je vais essayer de soutenir. Alors, je pense donc que la rencontre, une certaine façon de comprendre la rencontre sans nuance, obère, me semble-t-il, l'analyse de la société. Pourquoi est-ce que je dis une certaine façon de comprendre la rencontre? Parce que même quand on ne fait pas de la rencontre physique, du corps à corps, du corps face à un autre corps, un modèle explicite, c'est tout de même ce modèle qui souvent autorise foncièrement la critique qu'on développe de la convergence par synchronisation des sujets. Il y a toute une critique de la société qui présuppose la vertu, comment dire, absolue de la rencontre. Vous trouvez ça chez Marc Auger, par exemple, mais vous trouvez ça aussi chez Fusser. Et je pense que dans une certaine mesure, il faudrait que je leur dise peut-être un peu plus, on trouve ça aussi chez Bernard Stiegler. Une critique de la société qui consiste à dire ce qui ne va pas dans la société, c'est qu'on ne peut pas s'y rencontrer. C'est qu'on passe les uns à côté des autres. Or, je viens d'essayer d'évoquer avec le film Les Hommes le dimanche la dynamique d'une série d'images dans lequel la ville vit, est vivante et vive du fait que justement les gens se croisent sans se rencontrer. Ça va et vient dans tous les sens. Et j'essaye de penser ça comme une qualité urbaine. La possibilité de ne pas se rencontrer, je sais que c'est paradoxal, c'est pourtant ce que je vais essayer de soutenir. En d'autres termes, il y a une critique de la société qui ne parvient à atteindre le but qu'elle se propose, mettre en cause une façon d'organiser les existences, voire de les programmer. Elle ne parvient, cette critique, à son but qu'en optimisant, pour ainsi dire, la notion de rencontre, peut-être en l'optimisant de façon excessive, c'est-à-dire en faisant de l'expérience de la rencontre un idéal social, sinon même l'idéal de la vie sociale. Donc, je vais essayer de vous proposer, en tout cas, de soutenir l'idée que l'idéal de la vie sociale, ça n'est pas la rencontre. Ou, pour le dire, je suis enregistré, il faut que je fasse quand même attention à ce que je dis, bien entendu, je dirais... Si la société est faite pour quelque chose, est bien faite pour quelque chose, est faite pour bien faire quelque chose, ça n'est pas la rencontre. Je soutiendrai l'idée que pour penser positivement la vie sociale, il ne faut pas penser la société comme étant le lieu par excellence des rencontres. Je ne suis pas en train de dire que se rencontrer, ça n'est pas bien. Je pense qu'il faut qu'il y ait des lieux de rencontre, bien entendu. Mais que l'essence de la vie sociale, ça n'est pas la rencontre. Et l'importance peut-être même de la vie sociale pour nous, ça n'est pas la rencontre. Alors, évidemment, il faut reconnaître qu'un monde où on ne se rencontrerait, où on ne rencontrerait jamais personne, serait un monde inhumain. Et que toute philosophie qui peine à faire place à la rencontre d'autrui, c'était le cas historiquement des philosophies de Descartes et de Leibniz, ces philosophies-là sont au fond, comme on est assez prêt à le penser, ou certains sont assez prêts à le penser aujourd'hui, sont jamais loin d'une certaine inhumanité. Toute une critique contemporaine de la modernité a donc utilement ce point de vue à l'esprit, ce point de vue qui consiste à poser comme il ne faut pas perdre de vue la qualité du se rencontrer. Il faut qu'on puisse se rencontrer. Mais est-ce que ça suffit à faire valoir la réciproque? Un monde où on ne ferait que des rencontres. Un monde où le se rencontrer serait en quelque sorte inévitable et obligé. Est-ce que ce monde-là n'aurait pas à son tour quelque chose d'inhumain? C'est la question que je vais essayer de traiter, pas aujourd'hui, mais la prochaine fois. Je vais juste l'introduire ce soir. Donc, la position est celle-ci. Un monde dans lequel se rencontrer serait impossible, comme peut-être une certaine tendance du texte de Fuster peut le donner en pensée, serait un monde, on va dire, inhumain. Inhumaine serait la situation dans laquelle je ne pourrais plus rencontrer aucun ou aucune d'entre vous. Et donc, souvent, parce qu'on pense ça, et probablement on a raison de penser ça, on développe une critique radicale de la société, ou plutôt, on développe de la société une idée, c'est plutôt comme ça qu'il faut le dire, on développe de la société une idée qui est qu'elle est faite pour ça, que la vie sociale est faite pour la rencontre. Eh bien, j'en suis pas sûr que la vie sociale soit faite pour la rencontre, je suis même pas sûr que ça soit une bonne façon de soutenir la notion de société que de dire le social, c'est là où on peut rencontrer d'ailleurs, qu'est-ce qu'on va dire? Ses proches, ses semblables, ses égaux. Bon, je propose de mettre au moins à la question cette thèse qu'on entend couramment, de la retourner et de dire un monde dans lequel nous serions obligés de nous rencontrer, une société, si ça existait, dans laquelle nous ne pourrions pas ne pas nous rencontrer, c'est-à-dire où la rencontre serait quelque chose soit d'inévitable, soit d'obligé, eh bien, une société comme ça serait probablement une société pour nous insupportable. Il faut donc regarder les choses avec une certaine lucidité, peut-être, et se dire qu'il n'y a rien d'inhumain à poser l'idée que dans certains endroits, ce qui fait la qualité de ces endroits, c'est qu'on peut ne pas s'y rencontrer. C'est qu'on peut passer les uns à côté des autres. Autrement dit, je m'engage, et je vous engage, peut-être plus la prochaine fois que ce qui reste de cette soirée, à développer une conception positive du côtoiement, plutôt que de la rencontre. Et de dire, c'est une qualité de la société que de rendre possible les côtoiements, le fait de passer les uns à côté des autres. Autrement dit, je soupçonne notre pensée d'une certaine dépendance. Nous nous sommes habitués à faire valeur absolue du rapport frontal aux autres, c'est-à-dire de la rencontre, de se regarder les yeux dans les yeux. De s'affronter, dont je parlais, je crois, tout à l'heure en commençant. Nous nous sommes habitués, nous avons habitué notre pensée à faire valeur absolue du rapport frontal aux autres et au monde, exigeant en somme ce rapport au-delà de son champ de validité possible, et tendant du coup à confondre le public et le social, et à laisser par là même substantiellement impenser le social, faisant même peser sur lui une sorte de surmoi politique, ou mieux, constituant le politique en instance moins spécifique que surmoïque, si j'ose cet adjectif. Ce que je veux dire, c'est que je garde les définitions de l'an dernier à l'esprit. L'espace politique, c'est un espace dans lequel, en effet, nous nous affrontons. Je tire ça de ma lecture d'Hannah Arendt, que j'ai rappelé rapidement tout à l'heure. Penser la société comme un lieu de rencontre, c'est-à-dire un lieu dans lequel on va se trouver visage face à un visage, c'est-à-dire, c'est parce que c'est ça une rencontre, c'est penser la société comme étant vouée à être un espace public. C'est penser le social comme étant voué à être un espace public, c'est-à-dire un espace où on rencontre le visage de l'autre pour l'affronter, y compris dans tous les devenirs possibles. L'accord comme on veut. Voilà. Bon, peut-être que si la vie sociale existe, s'il y a une dimension sociale à l'existence humaine, c'est pour d'autres raisons que la rencontre. C'est pour ça qu'il faut donc qu'on cherche. Et je pense qu'en faisant cette recherche, nous pourrons libérer la société de son surmoi, ou notre pensée de la société de son surmoi politique. Parce qu'en fait, je pense qu'aujourd'hui, nous confondons beaucoup les questions sociales et les questions politiques. Parce que nous faisons des questions sociales des questions politiques, nous pensons que les questions sociales sont des questions politiques, et c'est ça que je veux dire dans la formule. Nous faisons de la politique le surmoi de la société. Du coup, les deux y perdent. Ni nous ne comprenons ce que c'est une relation sociale, ni nous ne faisons vraiment de la politique. Donc je voudrais proposer une autre façon de mettre en relation justement ces trois instances, privées, sociales, publiques. Pour le dire au passage, ce que je cherche pour ma part, n'est rien d'autre que la spécificité de chacun des champs que peuvent désigner les mots privé, public et social. La spécificité, c'est ça que je cherche dans ce séminaire, de chacun de ces champs, le privé, le public et le social. Quand je dis la spécificité, je ne dis pas la hiérarchie. Je ne dis pas qu'il faut que l'un domine l'autre, ni la vie sociale ne doit dominer la vie privée et la vie politique, ni la politique ne doit dominer la vie sociale, etc. Ce sont des instances dont il faut trouver les spécificités et non pas les rapports hiérarchiques. Je conclue pour ce soir de ce qui a pu peu à peu forger l'habitude, donc, à surestimer le regard frontal, le vis-à-vis, la rencontre, il faudrait évidemment que je puisse le traiter davantage. Qu'est-ce qui a bien fait que notre culture ait valorisé ou survalorisé le fait d'avoir face à soi les autres? J'imagine, je n'aurai pas le temps de développer ce que je n'aurai pas le. J'ai choisi de ne pas développer ce point dans les séances suivantes. J'imagine que l'art du tableau en perspective, que je pourrais opposer à celui du cinéma, en tout cas à cette sorte de possibilité cinématographique que j'évoquais en citant le film Les Hommes le Dimanche, n'aura pas été pour rien dans l'affaire. Hein, la culture de la perspective. Qui, à mon avis, n'est pas celle du cinéma, qui nous a appris un autre regard que le regard où on a face à soi le monde et les autres. Je dirais que le regard du cinéma est un regard plutôt latéral, et c'est par travelling ou par à côté, etc. Et c'est une modalité du regard qui va nous aider, je pense, à penser la société, parce que si on valorise ce regard-là, on ne survalorise pas le face-à-face, la rencontre, la vue en perspective et tout ce genre de choses. Sans faire l'éloge des fuites et même des lignes de fuite, je vais biaiser avec l'analyse qu'il faudrait sûrement développer de ce qui structure le regard dans une culture. Je vais biaiser avec cette analyse et suggérer, à titre de qualité pour le regard humain, d'autres situations comme longer ou voir en travelling. Peut-être que justement, ce que permet la vie sociale, c'est un mode du regard par côté, le regard on longe, le regard par travelling, etc. Ce qui va se passer probablement dans les côtoiements, vous voyez, qui est pas un regard dans lequel on attrape le regard de l'autre. Peut-être que ça a une qualité. Peut-être que le cinéma nous aura permis de vivre avec cette qualité de regard dans un monde où la société, la vie sociale se développe. Je vais chercher à définir corrélativement pour le social et comme social une autre qualité que la rencontre. On va faire ça la prochaine fois. Chercher à définir pour le social et comme social une autre qualité que la rencontre. De même qu'il y a plusieurs qualités pour le regard en perspective, à quoi nous avons été éduqués par toute une histoire de la peinture, mais aussi le regard de biais, le regard latéral, le regard en travelling, à quoi nous sommes éduqués depuis le cinéma. De même qu'il y a regard et regard, de même peut-être y a-t-il dans la vie sociale d'autres qualités à faire émerger que celle de la rencontre. Et cette qualité, ce sera la qualité du côtoiement. Qu'il y ait une corrélation entre un mode du voir et une façon de qualifier le social, c'est un point important que j'essaye de faire remarquer ce soir. Et sur lequel il faudra, bien entendu, si nous le pouvons, revenir. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été clair. Comme toujours, je termine avec le sentiment de ne pas l'avoir été du tout. Mais peut-être quand même quelques idées sont passées. Et comme je ne suis pas pressé, si vous souhaitez que je précise des points qui ne seraient pas clairs, eh bien, pour moi, il y a le temps de le faire. Je vous remercie de votre attention que je vois, même si je ne la sens pas directement comme quand on parle en public.
Merci
Merci à
beaucoup.
toi, ouais. Merci Pierre Damien.
Merci.
Merci.
Alors, est-ce que je vous ai perdu?
Non.
Non, non, c'était.
Ton micro est coupé.
Ah oui. Ah mince, mon micro est coupé. Non, non, c'était assez clair. Ça nous fait réfléchir.
Bah, assez déstabilisant, c'est un renversement quand même de complet.
Peut-être qu'il faut en dire un petit peu plus sur le caractère déstabilisant ou renversant.
Bah, cette idée de, alors qu'on est en manque de rencontres, de se dire qu'il faut fonctionner peut-être sur l'idée que la rencontre n'est peut-être pas n'est pas la seule, le face-à-face, tous ces points-là me questionnent en tout cas.
Oui.
Mais si on reprend le théâtre où il y avait une comparaison tout à l'heure avec le théâtre et le cinéma, et qu'au théâtre il y avait rencontre, donc c'était peut-être considéré plus positif que le cinéma où il n'y a pas d'interaction a priori possible. On ne peut pas changer. Oui, non, voilà, c'était.
En même temps, qui d'entre nous aujourd'hui dirait, je vais parler un peu stupidement, hein, mais qui d'entre nous aujourd'hui pense au fond que le cinéma, c'est pas bien. Qui d'entre nous, cette dernière année particulièrement, mais même avant, peut dire « je n'ai jamais regardé un film et je ne passe que très 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 peu de temps devant un écran ». Donc la réponse, c'est qu'aujourd'hui, non seulement nous faisons ça, mais il serait faux de dire que nous le subissons, je pense. Nous avons du goût pour ça. Et c'est ça que j'essaye de travailler. Parce que si nous avons du goût pour ça, alors il faut l'assumer. Il faut donc penser le fait de ne pas se rencontrer sur le mode traditionnel, en tout cas, comme au théâtre, etc. Le fait, au fond, je regarde un film sur mon écran, je le siffle chez moi, ou j'éteins, je quitte la projection parce que ça ne me va pas. Ça n'empêche absolument pas que le film continue à être projeté. Donc ma réaction est sans influence. C'est ça que veut dire au fond Flusser. Mais moi, je ne suis pas Flusser. Je ne vais pas sur la même route ou le même chemin que lui. C'est que en fait, je pense qu'il faut assumer le plus joyeusement qu'on pourra cette situation dans laquelle nous regardons des films sur lesquels, sur le déroulement desquels, nous ne pouvons pas influer. Ben voilà, c'est ça que je cherche. Je pense que c'est dans un premier temps paradoxal, mais je cherche la qualité de ça. Est-ce que je suis clair quand je dis une chose comme ça?
Dans l'idée de ce que Godard dit quand il va au théâtre, il s'ennuie et qu'il préfère cette qualité du cinéma.
Écoute, je ne savais pas que Godard disait ça, mais ça me va très bien.
Ah ben, il le dit,
Godard, que ce soit de Godard et qu'il dise ça.
Et il dit vraiment que ça l'ennuie, cette interaction, avec, et qu'il a envie de partir. Alors qu'au cinéma, il a une plus grande liberté de partir s'il veut, mais
quand même, parce que comme je suis enregistré que ça va être diffusé, je suis pas en train de dire « à bas les théâtres hein. ». De même que j'ai pas dit, je ne dis pas, ou je me dis pas « il ne faut plus se rencontrer ». Je dis qu'il faut faire la part de la pertinence de la notion de rencontre. Ça veut dire faire une critique de la notion, c'est-à-dire critiquer, définir. Je parle latin, définir, ça veut dire délimiter. Il faut délimiter la pertinence de la notion de rencontre. Et il faut ouvrir, c'est le cas de le dire, de l'espace pour quelque chose qui, en fait, nous importe, dans lequel nous mettons des valeurs existentielles et qui n'est pas fait de la rencontre. Ce que j'ai essayé de dire, comme j'ai pu ce soir, en disant un monde dans lequel la rencontre serait obligée ou inévitable est un monde qu'on ne pourrait pas supporter. Par exemple, un monde dans lequel ça a existé dans l'histoire. Ce n'est pas par hasard que j'ai cité « Les hommes le dimanche », film tourné en Allemagne, à Berlin, juste avant l'arrivée des nazis. Après, justement, quand ils sont arrivés au pouvoir, ce qui est évoqué dans quelques plans du film, c'est-à-dire le défilé des gens. Mais le défilé, c'est une situation dans laquelle la rencontre est organisée. Voilà. La confluence, la convergence est organisée. Ben, je pense qu'un monde dans lequel nous serions obligés à la rencontre, c'est aussi un monde insupportable. Disons ça pour ce soir. C'est un séminaire de recherche. Hein. Donc, il faut ouvrir les hypothèses.
Moi, je faisais une réflexion pendant que vous parliez. Alors, ça va un peu dévier par rapport au cinéma. Alors, je suis tout à fait d'accord sur le fait que ça soit une qualité dans certains lieux de ne pas pouvoir se rencontrer, etc. Ça, je suis très sensible à cet argument. Mais du coup, ce que je me disais, c'était que bah, ce qui fait la qualité d'un lieu social, c'est-à-dire ce qui fait qu'on puisse ne pas se rencontrer, c'est l'anonymat, en fin de compte. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ne connaisse pas les gens pour que, justement, il puisse y avoir des frôlements, des passages, etc., où on rencontre bah, les gens, effectivement. Et bah, cet anonymat, il réclame, en fait, il a des conditions spécifiques, on va dire. C'est-à-dire que, par exemple, dans un lieu trop petit, on connaîtrait vite tout le monde, et du coup, il n'y aurait pas cette qualité d'anonymat, et il n'y aurait pas, du coup, cette qualité d'un lieu social où on peut se croiser sans se rencontrer, etc. Et du coup, ça me renvoie au fait que dans le séminaire que vous avez fait il y a quelques mois, vous avez entrepris une critique de l'accumulation, qui était aussi, du coup, une critique de l'accumulation humaine. Et ce que je me disais, c'était que bah, pour qu'un lieu soit social au sens que j'ai essayé de dire et que vous avez essayé de décrire, bah, est-ce qu'il ne faut pas une certaine accumulation humaine ? C'est-à-dire, est-ce qu'il ne faut pas tout simplement la masse, comme dirait par exemple Médiamine ou d'autres ? Voilà, c'était un peu la réflexion que je me faisais pendant la séance.
Alors, est-ce que je peux proposer des distinctions terminologiques
Bien sûr.
Oui, bien sûr. Je... Comme toujours, dans un premier temps, ce genre de proposition de distinction, c'est pour réfléchir. C'est pas forcément des distinctions avec lesquelles on peut tenir longtemps une conversation dans le monde des gens qui parlent avec les mots comme ils viennent. Non, pas forcément en les réfléchissant, mais disons, parce que vous avez évoqué Benjamin, etc. Je pense qu'il faut faire une distinction entre la masse et la foule. Et d'ailleurs, quand je parlais dans le texte qui a été publié autour des hommes le dimanche, je me souviens pas, j'ai pas tout relu, mais je crois, si c'est pas là, c'était à peu près dans la même zone de. Je faisais cette proposition de distinguer entre une masse et une foule alerte. Et dans Les Hommes le Dimanche, justement, on a affaire à la ville de Berlin, qui est dans un pays qui va pas tarder à devenir nazi, c'est-à-dire qui va pas tarder à massifier, à développer que des comportements de masse. Voilà. Et la masse, c'est quand la foule cesse d'être alerte. Alors, alerte, la foule, elle l'est quand, justement, dynamique, lorsqu'elle peut aller dans tous les sens. Que ça va et vient dans tous les sens, etc. Et que par conséquent, on ne se heurte pas. Le fait de ne pas se rencontrer, de pouvoir ne pas se rencontrer, ça a au moins cette qualité, on ne se heurte pas. Voilà. Et donc déjà, je dirais ça, au fond, ce que je suis en train d'essayer de mettre en réflexion, c'est cette différence-là, vivre en foule et vivre en masse, c'est pas la même chose. Voilà. Alors après, pour... peut-être mieux, enfin plus directement à répondre à votre observation, je dirais que les conditions historiques qui rendent les masses possibles sont les mêmes que celles qui rendent les foules possibles. Les conditions technico-matérielles qui rendent les masses possibles sont les mêmes que celles qui rendent les foules possibles. Autrement dit, je fais allusion à tout le courant de pensée qui, notamment en Allemagne, hein, Simmel, Krakauer, Benjamin, etc. Krakauer était un disciple de Simmel, hein, par hasard que j'ai cité Simmel l'année dernière, et Benjamin a peut-être pas assez cité Krakauer, mais lui a beaucoup emprunté, énormément emprunté. Quand ils se mettent à penser ces gens-là, ben, au fond, Je crois que c'est ça qu'ils disent. Le fait est, les grandes villes se sont développées, historiquement. On peut dire aujourd'hui encore, c'est pas le meilleur des mondes possibles, la grande ville. Peut-être l'humanité a connu mieux, peut-être elle connaîtra mieux. En attendant, elles sont là. Si pour mener une belle vie, il faut détruire les grandes villes, c'est catastrophique aujourd'hui. C'est des questions, je ne sais pas comment dire ça, je pense que c'est des questions qu'on pourrait poser avec une certaine tendance de la pensée écologique contemporaine. Voilà. Moi, je n'arrive pas à penser, en tout cas à un horizon qui me semble vivable, enfin, moi je ne le connaîtrais pas de toute façon, mais en allant pas trop loin dans le futur, je pense qu'il faut se dire qu'on va continuer à vivre avec les grandes villes et les conditions technico-économiques qui ont fait les grandes villes dans l'histoire. Et bien, ces conditions technico-économiques qui ont fait les grandes villes dans l'histoire, ce sont celles qui rendent possible les masses ou les foules, mais peut-être c'est une alternative, et que ce que je cherche, c'est à définir les conditions de la vie en foule, sous-entendu, la vie en foule alerte ou la vie alerte en foule. Voilà. Et ça, je pense que ça suppose que nous puissions passer les uns à côté des autres. Il faut penser ça. Encore une fois, s'il n'y a que ça, ça ne va pas. Mais s'il n'y a pas ça, ça ne va pas non plus. Donc, il faut penser ça comme une qualité. J'essaye de penser ça, le côtoiement, le passage les uns à côté des autres, que bien sûr on peut critiquer en disant c'était quand même dommage qu'on ne rencontre pas tous les gens avec qui on prend le métro. Mais vous vous rendez bien compte que si on devait rencontrer tous les gens avec qui on prend le métro, on ne pourrait plus vivre. Voilà. Il y en a bien trop pour moi. Et même pour être très franc, il y en a que je n'ai pas du tout envie de rencontrer. Et alors, est-ce que c'est dramatique absolument, voilà. Ou est-ce que justement, ce n'est pas une qualité de la vie sociale qui, par ailleurs, a des tâches à remplir qu'il faudra qu'on définisse, que justement de permettre ça, dans un monde très urbanisé, nous puissions ne pas avoir la rencontre comme obligation. C'est ce qui serait la condition de possibilité de la foule et non pas de la masse.
Oui, mais je suis tout à fait d'accord. Enfin, vraiment, en termes de vécu, moi, je suis tout à fait d'accord avec cette idée que rencontrer tout le monde, c'est horrible et que c'est très bien d'avoir des espaces où on n'a pas à rencontrer les autres, etc. Mais du coup, ce que je voulais dire, c'était que, et vous en avez parlé avec les conditions technico-économiques de la grande ville, c'est que, en fait, je m'étais dit ça à la fin du séminaire où vous avez proposé une critique de l'accumulation. Je m'étais dit, bah voilà, pour moi, la limite de cette critique, c'est que j'aime bien vivre dans un lieu, justement, où il y a une certaine qualité d'anonymat qui fait que je peux me balader, croiser des gens sans les rencontrer, etc. Et du coup, voilà, je me disais, bon, bah oui, évidemment, on peut, enfin, c'est très important, la critique de l'accumulation, etc. Mais en termes de mon vécu de la ville, c'était une espèce de limite que j'envisageais. Voilà.
Donc, en fait vous me dites que nous n'étions pas d'accord au précédent séminaire et maintenant nous sommes d'accord.
J'ai pas dit qu'on n'était pas d'accord.
Oui, enfin,
j'ai dit que j'avais une réserve. Enfin, c'est-à-dire que j'étais d'accord avec ce que vous disiez sur l'accumulation, etc. Pour moi, ma réserve, c'était sur mon vécu de la ville, en fait. Sur la manière dont je vis l'espace urbain, tout simplement. Qui est pour moi un espace dont la qualité, justement, est ce que vous dites. C'est-à-dire qu'on puisse se croiser sans se rencontrer, qu'il y ait un certain anonymat, etc. Et pour moi, ça a toujours été quelque chose d'important. D'ailleurs, ça manque un peu maintenant que je suis dans une moins grande ville. Voilà, c'est tout.
D'accord. Est-ce qu'il y a des dernières questions ou est-ce que vous voulez qu'on passe, qu'on arrête l'enregistrement et qu'on passe en conversation informelle ? Oula, pardon.
Attends, je coupe. C'est bon. Pardon.
Non, je demandais s'il y avait encore des dernières questions ou si vous préfériez qu'on coupe l'enregistrement et puis qu'on continue à poursuivre de manière plus informelle.
À moi, vous posez la question ? Ou à tout le monde ?
À tout le monde.
T'as des questions ?
Moi, non.
Non ? Ouais. Moi, j'ai pas tant de questions. J'avais une remarque... Parce qu'il me semble que tu donnes un élément de réponse aussi, Pierre Damien, sur cette question de quelle est la qualité du côtoiement, en disant justement on peut passer à côté. Ça me semble être déjà la qualité du côtoiement, enfin de l'espace social, d'avoir la possibilité de passer à côté. Et j'aimerais même rajouter, comme on peut passer à côté, comme on peut ne pas passer à côté. Alors là, ça me met plein de questions en tête, c'est-à-dire est-ce que, je sais pas, est-ce qu'un espace social est un espace de circulation dans lequel on peut s'arrêter? Ou un espace de
circulation? Est-ce que c'est un espace de
circulation où on peut s'arrêter? Je repense au couloir, aux choses qu'on avait discutées à la première séance de cette deuxième séminaire. Un espace de circulation dans lequel on peut s'arrêter. Ou bien, j'essaye peut-être une autre formule, la qualité peut-être du côtoiement, ce serait de se mettre à côté. Et avoir la possibilité de ne pas se mettre à côté.
Oui. Mais comme souvent, ça tient. Enfin, j'allais dire la pensée, ça tient à un peu de choses, un petit mot qu'on va déplacer. Par exemple, si je le dis en français, je reprends ton expression, je comprends bien le contexte que moi-même je vais utiliser dans mon propos, mais si j'enlève le contexte. Et que je dis passer à côté, ça veut dire rater.
Oui, c'est ça.
Passer à côté de quelque chose, c'est rater la chose. Voilà. C'est une partie du problème. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on arrive à penser donc, l'expérience du côtoiement comme n'étant pas l'échec d'une rencontre. On n'est pas passé à côté nécessairement d'une rencontre. Alors, il y a le fameux poème de Baudelaire à une passante que Benjamin a tellement commenté, qu'évidemment, sur le plan, disons, des références chic. Et je l'ai là derrière la tête. Est-ce que justement, qu'est-ce qui se passe dans le poème de Baudelaire? Est-ce qu'il se plaint d'une rencontre qui est ratée? Il est passé à côté de la passante, il est passé à côté de lui et il en est triste pour le restant de ses jours. Ou bien est-ce qu'au contraire, il y a quelque chose d'excitant là-dedans, hein, c'est-à-dire, ils ont pu se jeter un coup d'œil l'un à l'autre qui a quelque chose, j'allais dire une déclaration d'amour, quelque chose qui a, en tout cas qui a une dimension excitante, disons les choses comme ça. Voilà. Après tout, regarder les gens passer à côté de soi dans la rue, je n'ose pas dire toutes les phrases qui me viennent à l'esprit parce que je suis enregistré et donc je suis un peu timide. Mais bon, vous voyez certainement le type d'ambiance auquel je suis en train de passer. Mais autrement, la phrase « passer à côté de quelqu'un » ou « passer à côté de quelque chose », c'est une phrase négative, c'est une expression négative. Alors, je vous suggère une autre. J'ai installé ça un petit peu dans la séance de ce soir et j'arrive pas à tout faire en même temps. Peut-être j'aurais dû me concentrer là-dessus. Enfin, maintenant, c'est fait. Mais si au lieu de dire passer à côté
se mettre à
de quelqu'un ou de quelque chose, je dis passer le long d'eux, passer le long, voilà, longer, je vais dire. C'est un mode du regard qui est justement le mode du travelling, le mode aller le long d'eux, pouvoir aller le long d'eux, etc. Et bien là, je ne suis plus dans la connotation négative. Or, il se trouve que la peinture classique, le regard éduqué par la peinture classique n'a pas cultivé, valorisé le regard le long de, mais le regard en perspective, qui est le regard de l'humain qui se met le monde en face, hein, et qui a même tellement le monde en face que la technique de la perspective, c'est que tout converge devant le regard du regardeur. Le regard du cinéma, par exemple, je pense à des films de Chantal Akerman, le Test, par exemple, ou le film sur New York, où il y a un travelling incroyablement long qui fait voir New York toujours, alors on va dire par côté, alors c'est pas le bon mot, de côté non plus, le long d'eux. Et on voit la ville qui ne cesse de s'ouvrir par les côtés, qu'on n'aurait jamais vu, jamais, dans une vie en perspective. Donc il y a une qualité du regard le long d'eux, c'est-à-dire une qualité du regard qui est rendu possible par la technique du cinéma et que vous n'aurez jamais au théâtre. Donc, contrairement à Fusser, je ne veux pas construire une image corrélativement négative du cinéma et de la société, et de la société d'aujourd'hui. Je cherche au contraire. Voilà. Et je ne sais pas si j'ai répondu, On n'est pas sorti de l'auberge, si j'ose dire. Hein. C'est-à-dire, ben d'abord, sur le séminaire de cette année, il y a encore 4 séances devant nous, et peut-être qu'il faudra encore un séminaire l'année prochaine. Voilà. Mais j'irai dans ce sens-là. Finalement, le développement de la vie urbaine, un certain développement de l'instance ou du mode social de la vie humaine, nous aura fait découvrir des expériences auxquelles nous ne pouvions pas songer ou penser dans le monde d'autrefois, celui qui éventuellement plus sert d'appel industriel ou pré-industriel, comme celle-là. Voilà. Et peut-être ce regard-là, le regard qui longe, le regard qui croise, il faudrait en chercher d'autres. Nous avons, comment dire, il faut que nous nous demandions quelle en est l'utilité. Alors, utilité, j'entends par là au sens où j'ai travaillé le mot par ailleurs dans mon travail, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est possible, c'est pas quelque chose qui est nécessaire, c'est pas quelque chose qui est indispensable, c'est quelque chose qui est possible et qui, dans sa possibilité, a une vertu, a une qualité.
Est-ce que
autrement nous pardon.
Non, vas-y, je t'en prie.
Vas-y.
Non, j'allais te
je
demander.
Je pense que si on fait pas ça, si nous ne faisons pas ça, nous nous condamnons à nous dégoûter du monde dans lequel nous vivons. Et c'est ce que je cherche à éviter le plus que je pourrais. Si on suit, évidemment, vous lisez Flusser, c'est épatant, quoi. C'est absolument brillant. Mais quand vous avez fini de lire ça, qu'est-ce que vous voulez faire dans le monde d'aujourd'hui? Il y a plus aucun espoir. Et je pense que ce n'est pas une bonne idée de se désespérer.
J'ai juste une dernière remarque.
Ah bah vas-y.
Mais c'était exactement... en tout cas, je pensais à ça. Cette formule de passer à côté ou se mettre à côté. Parce qu'effectivement, passer à côté, on va louper quelque chose. On n'aura pas ce moment particulier, quoi. Mais du coup, ça donne envie, je vais dans ton sens, tu vois, de chercher cette qualité du côtoiement. Ça donne envie de... Et par rapport à ce qu'on disait sur la notion de dégradé entre l'espace public et l'espace privé de la dernière fois, en évoquant que peut-être le couloir n'est pas un espace social. Du coup, ça donne envie peut-être de penser ces espaces de côtoiement, c'est-à-dire des espaces... Un espace social pourrait être, je ne sais pas, je teste une formule, mais de faire des choses à côté. Faire des choses à côté de, je ne sais pas, de l'espace privé, public, ou même à côté de l'industrie. Enfin,
oui, cela dit, on peut dire aussi, par exemple, pouvoir faire quelque chose à côté de quelqu'un. C'est pas forcément mal. Pas... Voilà. Voilà, il faut penser à tout ça. Passer à côté, par exemple, cette expression aussi, en t'écoutant à l'instant, je viens de penser que finalement, une façon de passer à côté de quelque chose, c'est, on peut dire, se soustraire. Pouvoir se soustraire, c'est ne pas être obligé à faire face. Voilà. Mais dans certains cas, pouvoir se soustraire et ne pas être obligé à faire face, c'est une bonne chose. Si je suis convoqué dans un meeting nazi et que je peux me soustraire à l'obligation de faire face aux fourreurs, c'est bien. Alors, je prends l'exemple parce qu'il est dans la période historique du film Les Hommes le Dimanche, etc. Et puis que cet exemple, on ne peut pas me contester. Mais on peut le traduire à de plus petites échelles, pouvoir se soustraire à une convocation publicitaire, par exemple. La publicité nous convoque dans les grands magasins, les supermarchés, pour reprendre les exemples du texte de Flusser. Pouvoir se soustraire à ça, passer à côté de ça, voilà, ça peut être une qualité de la société. Je vais vous dire à ça, c'est ça que je cherche à dire. Voilà. Une société dans laquelle on peut passer à côté des convocations, c'est peut-être une société intéressante. C'est peut-être une idée intéressante de la vie sociale. Et quant au couloir, Je ne suis pas encore capable d'en reparler ce soir, mais il y a quelque chose qui m'intéresse, même dans les proximités de mots, entre le couloir et l'écoulement. Et par exemple, les couloirs de la RATP, qu'est-ce que c'est? Ça gère des flux de passagers comme de l'eau qui s'écoule dans des tuyaux. Alors dans ce cas-là, est-ce que ça nous intéresse vraiment, cette idée-là du couloir, de l'écoulement des foules ou des masses? Qu'est-ce qui s'écoule dans un couloir de la RATP? Une masse ou une foule? Pour reprendre les distinctions de ce soir. Et si c'est une masse, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour que ça soit plus un écoulement massif?
Ça, je prends les lieux de circulation.
J'espère que j'arriverai, enfin, j'ai déjà un peu commencé à l'instant, mais que j'arriverai à construire un ensemble de notions qui nous permettraient de parler de ça rigoureusement et positivement.
Ouais, c'est intéressant. Mais vas-y, pardon, tu voulais dire quelque chose.
Je voulais dire quelque chose. Non, mais déjà, tu as répondu en partie à une des questions que je me posais. C'est-à-dire que j'ai l'impression que ce qui nous arrête dans nos passages, c'est moins des personnes que des sollicitations publicitaires, des vitrines, des objets, des bancs, etc. Et que au fond, ta critique de la rencontre, il faudrait pas la limiter, en tout cas, à la rencontre d'homme à homme, mais que c'est même une critique plus fondamentalement, mais tu l'as dit, de la fixité, enfin de l'arrêt, de ce qui nous arrête, etc. Mais tu viens de commenter ça. Mais j'avais une autre question qui était est-ce qu'une utilité, puisque tu as mis le mot, est-ce qu'une utilité du côtoiement, du regard qui longe, bon, t'as dit, ça peut être de se soustraire, mais je me demandais si ça pouvait pas être, ou si c'était pas aussi, selon toi, de rendre possible, voire de favoriser la distanciation, la distanciation. Et là, je pense par exemple au travelling que tu évoquais de la ville de New York. Et je pense à ce coup d'œil en passant ou à la passante qui est dans lequel il y a en fait de la distance et il y a donc aussi de la curiosité pour ce qu'on regarde. C'est pas une immersion, en fait, ça me paraissait presque même un intermédiaire entre ce côtoiement, entre la distanciation, la distance, la distance et la rencontre. Un peu entre les deux, donc pas tout à fait à distance, pas tout à fait proche non plus, mais donc curieux, éventuellement intéressé. Intéressé en demande par rapport à ce qui passe à portée de ce regard qui longe. Ça fait une question, une remarque un peu longue. Désolé.
Oui. Pour moi, c'est plus une remarque qu'une question. Je ne sais pas. J'ai pas bien entendu trouver exactement la question. Je réponds donc juste avec quelque chose qui me vient à l'esprit en t'écoutant. En fait, je vais faire l'éloge une fois de plus dans les prochaines séances de la distraction au sens que je crois avoir repéré chez Benjamin, hein, le distrait, le tirer de côté. On retrouve cette expression, hein, de côté. Le distrait, c'est celui qui peut, qui parvient à se mettre l'esprit à côté, l'esprit de côté. Donc, par exemple, en effet, non pas seulement il est sollicité, mais il est quasiment convoqué, en tout cas presque convoqué. On peut dire, je ne sais pas, dans les couloirs du métro, la publicité a quelque chose d'agressif. Elle, elle me, elle me convie pas à quelque chose, elle est sur le point de m'imposer, elle s'impose à moi, quelque chose de ce type-là. Eh bien, on peut dire, le distrait au sens de Benjamin, qu'à mon avis, il ne faut pas confondre avec le diverti, le distrait, c'est celui ou celle qui parvient à se mettre l'esprit de côté, l'esprit à côté, l'esprit ailleurs. Voilà. Et on peut penser ça comme une qualité, qui au fond, même presque une. Alors, ça rejoint pour moi la distanciation. C'est une qualité dans la mesure où ça consiste à. Mettre son esprit hors d'une influence, par exemple, hors d'une convocation. Bon. Donc, ce n'est pas forcément toujours une attitude qu'il faut recommander. Il faut bien, je répète, qu'on se rencontre. Une partie de la vie humaine requiert la rencontre. La vie amoureuse, évidemment, requiert la rencontre, ça va de soi. Voilà. Mais toute la vie humaine ne requiert pas la rencontre. Par conséquent, il faut arriver à penser, et de toute façon, ce n'est pas dans la société qu'on peut déployer une relation amoureuse, ça je le dirai la prochaine fois. Ça me semble évident que la rencontre amoureuse, si elle se produit dans ce qu'on pourrait appeler un espace social, elle va se produire pour qu'on se retire de l'espace social, pour pouvoir justement mener à son terme la rencontre amoureuse. Mais la société, par conséquent, si elle a une vertu, c'est ailleurs qu'il faut la penser. Et je crois que la distraction, enfin j'essaierai de faire un éloge de la distraction. Et que peut-être justement, quand ce qui n'est pas un espace social, mais disons une espèce d'étendue embarrassante, quand le social s'étend de façon à nous embarrasser la vie. Ça nous fatigue, ça nous encombre l'esprit, ça nous prend du temps, enfin, tout ce que vous voudrez de ce type-là, donc c'est l'expérience négative, c'est peut-être justement parce que la société est trop pensée et pratiquée comme un lieu de convocation de la vie humaine, comme un lieu qui serait le lieu par excellence de la réalisation de la vie humaine. Il ne faut pas la penser comme ça. Il faut lui trouver des qualités ailleurs que dans la rencontre, c'est-à-dire en effet dans une certaine expérience de la distance. Il y a plusieurs situations où l'expérience de la distance est une expérience peut être pensée comme une expérience positive. Et la distanciation de même. J'ai dit soustraction il y a quelques minutes en répondant à une question. Au fond, ça revient au même. La distanciation, c'est la possibilité de se soustraire à une influence déterminée extérieurement à soi.
J'avais une petite remarque.
Oui.
Sur cette idée de la distanciation, la possibilité de se soustraire à une règle, quand tu prends comme exemple la peinture et la perspective. Je pense que la peinture s'est affranchie de la perspective depuis
un moment,
et qu'à ce moment-là, cette idée de cheminer autrement est apparue aussi. Il y a eu donc voilà, cette opposition-là m'embête un peu, mais bon, voilà.
Non, mais tu as raison. Je sais pas ce que j'ai dit parce que à un moment donné, c'est super dur de parler à un écran en fait, et quand je j'abandonne un peu mes notes, je ne sais pas trop comment j'improvise à ce moment-là. Donc peut-être j'ai eu des phrases malheureuses, mais une phrase malheureuse, j'ai essayé d'être attentif. Je voulais parler non pas de toute la peinture, mais de la peinture en perspective. Le monde qui a quand même été un grand moment de l'histoire de la peinture est lié à la perspective. Et en même temps, quand la peinture s'affranchit de sa domination par l'idée ou l'idéologie de la perspective, elle est contemporaine de la photographie. Elle est contemporaine du monde comment dire ça ? D'un monde où une capacité à faire image n'est pas fondée sur le faire face, quoi. C'est autre chose, la photographie. C'est la réception. c'est la réception de quelque chose, c'est pas l'organisation de quelque chose sur son regard. Enfin bref, ça serait un sujet. Mais d'accord, il faut nuancer sur la peinture.